Ouvrons nos Bibles à Matthieu, chapitre 20. Il y a une discussion qui a eu lieu dans ce passage. Une discussion dans laquelle il y avait une demande de la mère de deux des disciples. Matthieu 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ça ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu as fait comprendre qu'il avait une coupe de souffrance que tu allais boire à notre place. Et selon qu'une souffrance, ce que nous pouvons vivre aujourd'hui peut se comparer à ce que toi tu as souffert. Mais sur toi, Seigneur, tu as pris la coupe de la souffrance afin que nous, on devienne des vases d'honneur. Afin que nous, on devienne des messagers de cette rédemption pour laquelle tu as donné ta vie. Au nom de Jésus. Amen. La coupe de la souffrance. Quand on réfléchit au moment quand Jésus va dire au Père, « Père, si c'est possible, si c'est possible, Père, empêche que je prenne cette coupe. Mais pas ma volonté, mais la tienne. » Il y a plusieurs versets dans la Bible qui font référence à la coupe. Déjà, vous vous rappelez Benjamin. Joseph avait fait cacher dans un sac de blé une coupe en or. Vous vous rappelez Joseph en Genèse. Et en fin de compte, si Benjamin devait être sanctionné parce qu'il avait été accusé d'avoir pris une coupe en or, il avait une souffrance qui était impliquée. La souffrance d'être mis en prison, la souffrance d'être privé de sa liberté, peut-être même se faire tuer. Déjà, quand on pense à cet incident, on trouve dans la Bible 94 fois des références à des coupes. Et 193 fois on trouve des références à la souffrance. Lors du dernier repas, en Matthieu chapitre 26, verset 28, le verset 26 nous dit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. En Marc 10, 38, nous avons donc le même le même moment dans lequel la maman des fils de Zébédée demande à Jésus cette faveur auprès de ses enfants. Et Jésus répond d'une manière différente et il dit, vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-il. Loin d'eux d'imaginer qu'est-ce que ça voulait dire. Vous vous rappelez en Jean chapitre 11, 18 et verset 11, Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Il a déjà prié. Il y avait une sueur comme des gloumons de sang qui tombaient, qui manifestaient l'épreuve difficile qu'il vivait à ce moment-là, dans laquelle il priait. Pour vous rappeler, il priait, il demandait aux disciples de prier avec lui, et chaque fois qu'il revenait, il dormait. Il a dit, mais vous ne pouvez pas prier avec moi une seule heure. J'ai besoin de vous. C'était une souffrance humaine qu'il allait traverser. C'était la croix qu'il allait traverser. C'était le déchirement de son corps qu'il allait traverser. C'était le fouet qu'il allait traverser. Et à un moment donné, Pierre, l'impulsif, il veut défendre Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée et il coupe l'oreille du serviteur, du sacrificateur. Jésus lui dit, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Dans les psaumes, il parle d'une coupe où on avale l'eau abondamment dans la joie. Donc il y a différentes coupes. Mais aussi on parle de psaume 85, tous les abreuves des larmes à pleine mesure. Une coupe de joie et une coupe de larmes. Mais Jésus-Christ, il faut comprendre, lui, il a souffert jusqu'à l'extrême. Hébreux chapitre 12, verset 1 et verset 2 et jusqu'au verset 5 nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, de notre part, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Mais rappelez-vous d'une chose, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est Jésus qui a lutté jusqu'au sang. C'est pour cela que nous, oui, on a des souffrances dans la vie. On est humain, on a des souffrances. On va parler de ce qui fait la souffrance dans notre vie. Mais Jésus, il a pris la souffrance comme personne. Il a lutté jusqu'au sang pour nous les pécheurs, la Bible dit. Amen. Considérons Jésus. Et lorsque nous souffrons, d'une manière ou d'une autre, d'une manière injuste ou d'une manière juste, la Bible dit en Pierre que des fois nous souffrons à cause de notre propre erreur, à cause de notre propre imprudence. On ne peut pas blâmer qui que ce soit, c'est notre faute, notre souffrance. Mais aussi on souffre pour la volonté de Dieu, on souffre parce que nous tenons ferme à la parole de Dieu. Ceux qui souffrent la persécution, ils souffrent aussi d'une manière à s'identifier à l'opprobre de la croix, à l'opprobre de Jésus. Mais Jésus-Christ, il a bu la coupe de souffrance. De Corinthiens chapitre 4, verset 7 et verset 10 nous dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que la gloire ne soit pas attribuée à Dieu, mais soit attribuée, pardon, à nous, mais soit attribuée à Dieu. Nous portons ce trésor de la lumière de Christ en nous. Et ensuite il dit, nous le sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Jésus, quand il a pris la coupe de la souffrance que le Père avait mis devant lui, lui, il a été réduit à l'extrémité. C'est pour ça que nous, on n'est pas réduit à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Jésus a été dans le désespoir. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que Dieu avait tourné le dos à Jésus? Parce que la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21, il est devenu péché pour nous. Lui qui n'avait jamais commis un péché, lui qui n'avait jamais écouté la tentation, parce qu'il a été tenté dans tous les domaines, selon Hébreux chapitre 4 et verset 15. Lui qui était l'homme parfait, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Cette mort de la croix, ce n'était pas une mort instantanée. Ce n'était pas la guillotine. Ce n'était pas donc une injection, comme on fait aujourd'hui dans des pays. C'était la mort de la croix. C'était long. C'était honteux. C'était dans l'embarras total. C'était dans la moquerie totale. Jésus a payé le prix de la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a porté notre souffrance. Il est mort à notre place. Il y a un chant dont j'aimerais vous partager. Je le traduis. Peut-être qu'il y a des mots qui pouvaient être changés. Mais écoutez le contenu. J'étais coupable sans rien à dire. Il venait juste me conduire à ma peine. Une voix du ciel se fait retentir. Laisse-le partir, prends-moi à sa place. C'est moi qui méritais de mourir ce jour. C'est moi qui aurais dû souffrir. Il m'aurait pendu sur l'infâme croix, mais Jésus est mort à ma place. La couronne d'épines, sa côte transpercée, toute la douleur m'était destinée. Les clous rouillés auraient dû percer les mains, mais Jésus a tout pris sur lui. C'est moi qui méritais de mourir ce jour. C'est moi qui aurais dû souffrir. Il m'aurait pendu sur l'infâme croix, mais Jésus est mort à ma place. Ça, nous, on le sait. Mais c'est eux qui méritaient de ce jour, c'est eux qui auraient dû souffrir. Ils auraient été pendus sur l'infâme croix. Mais Jésus est mort à leur place. Ils auraient dû être pendus sur l'infâme croix, mais Jésus est mort à leur place. Réfléchis un instant. Nous, on le sait. Eux, ils ne le savent pas encore. Nous, on vit les victoires de son sacrifice. Eux, les milliards de personnes encore qui n'ont jamais entendu l'appel à la croix, qui n'ont jamais compris pourquoi Jésus est mort sur la croix, qui n'ont jamais entendu, eux, ils ne le savent pas encore. Et je vous interpelle, nous sommes des messagers de dire que quelqu'un a bu la coupe de la fureur de Dieu. Quelqu'un a bu cette coupe à notre place. Jésus est devenu péché pour nous, la Bible dit. Dieu ne pouvait pas le regarder. Et c'est pour cela qu'il a tourné le dos. C'est pour ça que Jésus se sentit complètement abandonné. Complètement dans une souffrance. Une solitude. Mais il l'a fait pour nous. Et la Bible dit en Philippiens chapitre 3, verset 10, « Afin de connaître Dieu et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, si je puis parvenir, tout simplement courir dans la carrière que Dieu a mis devant moi. » Alors, nous n'allons jamais souffrir comme Jésus a souffert. Mais, on va voir des coupes de souffrance. Jésus a dit à ses disciples, oui, ok, vous allez boire une coupe de souffrance. Même si ce n'est pas la même coupe que moi que je vais boire. Même si ce n'est pas jusqu'à l'extrême comment je vais le faire. Mais il y aura des souffrances dans la vie. Alors, rappelons-nous, nous n'allons pas être comme ceux qui sont désespérés, abandonnés. Même si on serait persécuté, on ne serait pas abandonné. Parce que Jésus, lui, il a souffert jusqu'à l'extrême. Alors nous avons aujourd'hui à vivre quelque chose d'extraordinaire dans le Seigneur. Les souffrances momentanées qu'on peut subir, la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4 et 5, c'est rien comparé à la gloire qui nous attend. Amen. Rien. Et en plus, en Pierre, il dit que l'épreuve de notre foi, qui doit être purifiée comme l'or est purifié, doit avoir comme résultat la louange, la gloire, l'honneur, jusqu'au jour du retour de Jésus. On ne va pas se plaindre par rapport aux épreuves qu'on a vécues. On ne va pas se plaindre. On ne va pas tomber dans une amertume par rapport aux épreuves qu'on a vécues. Il dit que l'épreuve de notre foi, qui est plus précieuse que l'or, qui doit être purifiée, qui doit être mise par la fournaise pour être purifiée, doit avoir comme résultat la louange et la gloire et l'honneur. Alléluia. Car nos souffrances passagères sont rien comparées à la gloire qui nous attend. Des choses extraordinaires qui nous attend. On va tous goûter à la souffrance. Pourquoi ? Parce que c'est dans la souffrance que nous apprenons l'obéissance. C'est dans la souffrance que nous sommes fortifiés. C'est dans la souffrance que nous recevons le courage. C'est dans la souffrance que nous sommes conduits à la maturité. C'est dans la souffrance qu'on apprend à persévérer. Et c'est dans la souffrance qu'on apprend aussi la valeur de la prière. Il y a un chant qui dit, Seigneur, je te remercie pour la vallée par laquelle tu m'as fait traverser aujourd'hui. Car plus ténébreuse était la vallée, plus je ressentais le besoin de prier. Seigneur, je te remercie parce que c'est dans la vallée que j'ai eu un face à face avec toi. Dans la quiétude, près des eaux paisibles, dans des verts pâturages. Alors Seigneur, je te remercie pour la vallée que tu m'as fait traverser aujourd'hui. Merci pour toutes les collines que j'ai montées, que j'ai grimpées. Merci pour toutes les fois que le soleil n'a pas brillé. Merci Seigneur, parce que s'il n'y aurait que le soleil, les fleurs ne pourraient pas survivre. Alors Seigneur, je te remercie pour la vallée que tu m'as fait traverser. aujourd'hui. La vie ne peut être que du soleil. La vie ne peut être que de la pluie non plus. La vie ne peut être que des bénédictions. La vie ne sera pas que des souffrances. Seigneur, je te remercie pour la vallée par laquelle tu m'as fait traverser aujourd'hui. Et vous vous rappelez, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 12, il disait, Seigneur, il y a un ange de Satan qui vient me titiller. Réponse, ma grâce te suffit. Mais Seigneur, comment? Ces circonstances, mais Seigneur, comment tu vas le permettre? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car la souffrance fait partie de la vie. Job dit, un homme est né et il est plein de problèmes, plein de troubles. Mais c'est ça la vie. Ça fait partie de notre droit de naissance. On est humain. On est humain. Et on ne peut pas empêcher certaines épreuves. On ne peut pas empêcher certaines erreurs. On ne peut pas empêcher certaines imprudences de notre part. Alors, mais les coupes que nous pouvons boire sont rien comparées à la coupe de souffrance que Jésus a pris à notre place. Il a souffert comme souffre un homme. Il a souffert aussi comme Dieu souffre. Il a souffert comme souffre un homme dans le sens où il allait souffrir sur son corps la meurtrissure, la colère des soldats, le fouet, les clous dans ses mains, le clou dans ses pieds, la couronne d'épines. Imaginez une couronne d'épines incrustée, enfoncée dans la tête. L'épée qui allait transpercer son cœur. Lui, il a souffert. Et vous savez, quand nous, on souffre, nous avons les promesses de Dieu. Il avait les promesses de Dieu. Mais à un moment donné, Dieu a dit, je ne peux pas supporter de voir mon fils bien-aimé, sur lequel j'avais mis mon approbation au moment de son baptême. Voici mon fils bien-aimé en qui je trouve tout mon plaisir. Mais ce fils bien-aimé, qui n'avait jamais commis de péché, qui n'avait jamais subi les conséquences du péché dans sa vie, il est devenu péché pour nous. Et le Père l'abandonne. La souffrance opère en nous des miracles. La souffrance nous conduit dans une sanctification encore plus prononcée dans notre vie. Pourquoi? Parce que plus on s'approche de Dieu, plus il s'approche de nous. Jacques chapitre 4, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains aux pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Répentez-vous. Dieu nous appelle constamment, constamment à la repentance. Constamment, il nous appelle à nous approcher de lui, à participer à sa sanctification. Vous lisez le livre d'un Pierre, de deux Pierre, et vous allez trouver, cela contribue à notre sanctification. Pourquoi est-ce qu'il a souffert comme Dieu souffre? Parce qu'il était sous la croix et il savait qu'il était en train de mourir pour des personnes qui étaient complètement indifférentes à sa mort. Il savait qu'il mourait pour un peuple qui n'allait jamais se soucier de leur vie spirituelle, qui allait se moquer de la croix, qui allait se moquer de son sacrifice. Et pourtant, il a souffert volontairement. Il a donné sa vie pour nous. C'est ça l'ami. C'est ça l'amour de l'ami, il le disait. Il a donné sa vie pour nous. Sa coupe de souffrance, inégale, unique, il a volontairement. Personne ne m'ôte la vie, il a dit en Jean chapitre 10, 17. Mais je la donne de moi-même. Alléluia. Je la donne de moi-même. C'est-à-dire, Il a rendu son esprit. Personne ne l'a tué. Il est mort pour nos péchés. Il est mort à cause de nous. Si on était au pied de la croix, quelle aurait été notre réaction? Imaginez un instant. Il y a plusieurs années, j'ai regardé, je suis allé donc avec Denise, on a vu donc Jésus de Nazareth qui se jouait au palais de sport il y a une vingtaine d'années, je me rappelle. Et c'était M. Haussmann, donc qui. Hoffman, ou. Haussmann, qui avait voulu donc mettre en scène la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière scène, c'est la croix, avec un homme pendu sur la croix, après avoir vécu la souffrance. Et la dernière scène, c'est juste à côté d'une ligne de métro. Et les gens sortent du métro, sortent du RER, et ils passent devant la croix, comme si de rien n'était. Et c'est comme ça qu'il finit, Jésus de Nazareth. Ah, c'était poignant. C'était poignant. Jésus sur la croix. Et les gens passaient. Mais les gens voient la croix aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Nous comprenons la croix. Les gens ne la comprennent pas. Et pourtant, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus savait qu'on avait besoin d'une régénération. On avait besoin d'une nature transformée. C'est pour ça qu'il est dit en 2 Pierre chapitre 1, 3 et 4, où nous avons tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et Dieu nous rend participants de sa nature divine par ses grandieuses et précieuses promesses. Il nous régénère, il nous rend participants de sa nature divine. Nous sommes en train de devenir, nous sommes en train d'être transformés à son image. Et jour après jour, nous regardons la croix, nous regardons ce que Jésus a fait pour nous, et nous disons, Seigneur, je veux que les effets de la croix, je veux que les conséquences de la croix aient un impact sur ma vie. Car je veux, après avoir vu Jésus prendre la coupe de souffrance, je veux être un vase d'honneur. Je veux être un vase d'honneur qui le deviendra par la souffrance. La coupe nous fortifie. On parle d'une construction d'un bateau. Et il devait donc faire donc la grande colonne en bois, un mât du milieu du bateau. Vous savez, ils ne sont pas allés dans une usine pour chercher des gros morceaux de bois qui n'avaient pas été encore donc coupés en morceaux, etc., pour la vente. Mais ils sont allés dans une montagne et ils ont trouvé un arbre qui avait vécu des tempêtes. Ils ont trouvé un arbre qui avait vécu des moments très très durs pendant des décennies, voire peut-être des siècles. Et c'est de cet arbre-là qu'ils ont décidé de créer le mât qu'ils allaient mettre sur le bateau. Pourquoi ? Parce que cet arbre-là avait été préparé par les expériences de la vie pour faire face aux vents les plus forts imaginables. La souffrance nous fortifie. La souffrance nous donne de la carrure. La souffrance nous donne aussi une force. Combien de frères et sœurs à nous dans la Bible ont souffert, et au bout de la souffrance, il y avait des témoignages à leur égard. La souffrance aussi nous fait mûrir. Nous fait mûrir. Combien de vous désirez mûrir en Christ? Vivre dans une maturité en lui? Et ça sera au travers des épreuves. Jacques chapitre 1 nous dit, mais faire considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachez que, justement, en tenant ferme dans les épreuves, vous allez avoir de la patience. Et si quelqu'un manque de la sagesse, demandez-la à Dieu, de savoir comprendre comment les épreuves peuvent produire en nous la patience. Comment les épreuves peuvent produire en nous de ressembler Jésus. Avec les différentes courses qu'on peut voir, avec les Jeux Olympiques qui viennent de passer, on voit des personnes qui arrivent au bout. au marathon de Paris, ceux qui arrivent au bout. Ils n'arrivent pas au bout les derniers 200-300 mètres avec un grand sourire, hein, je vous assure. Ils font des grimaces. Ils arrivent au bout de 42 kilomètres. Certainement, oui, ils savent qu'ils sont les vainqueurs, mais je vous assure, le dernier kilomètre, ce n'est pas ce n'est pas facile. Ce n'est pas donc courir avec un élan complètement donc détaché de tout. Non. C'est la souffrance. Vous voyez les personnes qui ont remporté des prix, les médailles d'or, d'argent, etc. C'est avec au travers de beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 24? Ce n'est pas tous ceux qui courent dans le stade qui remportent le prix. Mais vous, courez de manière à le remporter. Amen. C'est ça l'exhortation. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. S'abstiner de quelque chose, donc c'est implique une souffrance. L'abstinence implique une souffrance. Même quand on fait des jeûnes et prières, c'est une souffrance pour le corps. Si on met sur ton cœur de faire un jeûne total, jamais se priver de l'eau, hein. Mais un jeûne total de nourriture. Vous savez, il y a plusieurs jeûnes, donc jeûnes qu'on voit dans la Bible, mais un jeûne total, si tu le mets sur ton cœur de le faire, ton corps va souffrir. Quand tu t'abstiens de quelque chose qui est un appétit, ton corps va souffrir. Alors il dit ici, ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais vous, faites-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, disait Paul, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Aïe. C'est Paul qui le dit. Donc il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Hébreux chapitre 10 nous dit qu'il faut persévérer afin de pouvoir obtenir ce qui nous est promis. Alléluia. Mais il faut persévérer. La souffrance nous conduit dans la maturité. La souffrance aussi nous apprend la valeur de la prière. Et je l'ai dit tout à l'heure, la valeur de la prière. Vous savez, la prière n'est pas seulement pour remercier Dieu et nous réjouir. La prière, parfois il y a des combats dans la prière à mener. Parfois, il y a la prière dans l'esprit. Quand on prie selon la volonté de Dieu, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire, mais on est en train de prier la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de prier sur notre vie quand on prie selon la volonté de Dieu? Quel est l'appel que Dieu placera sur notre vie? On prie, on intercède pour les personnes autour de nous. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont beaucoup mal en point que nous. Quand tu penses que tu es vraiment au bas de ta crête, regarde autour de toi et tu trouveras quelqu'un qui est encore plus bas. Parce que eux, ils sont dans la souffrance sans Christ. C'est pour ça qu'il est dit que quand quelqu'un meurt, moi j'ai vécu, donc ces derniers mois, j'ai vécu le départ de beaucoup d'amis, de jeunes amis, 66 ans. Là, j'ai une amie de 61 ans, laquelle j'ai grandi dans mon village, qui est décédée la semaine dernière. Sa fille était décédée l'année dernière, Ruby, elle s'appelait. Le mari de sa fille était décédé un an avant. La Bible dit que quand quelqu'un meurt au milieu de nous, nous pleurons, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Oui, nous pleurons. Il faut pleurer. Ça fait partie des émotions. C'est dans les pleurs qu'on va aussi se réfugier dans le Seigneur. Sœur Brigitte a perdu son frère récemment. Bien sûr, on pleure, mais on ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Le papa de Nutan est décédé. Mais à l'enterrement, Nutan a dit il avait une paix dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait ouvert son cœur à Jésus. Je vous donne une bonne nouvelle. Nutan est actuellement et Mélissa auprès de sa maman, qui pense qu'elle est aussi en fin de vie, elle a 85 ans. Il y a deux jours, sa maman a donné son cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand elle m'a téléphoné, donc mercredi, je lui ai dit, mais tu sais, on va prier que quand tu ailles, tes sœurs ne soient pas là, qu'il y a un moment dans lequel elle est seule et que Dieu va t'utiliser. Et elle a dit, Marc, on a saisi le moment, ils sont allés acheter des choses, on lui a parlé, et elle a accepté Christ dans son cœur. Alléluia. La paix de Dieu dans son cœur. Elle a 85 ans, si c'est son temps pour partir, Dieu peut la prendre maintenant, il peut la prendre. Et après qu'elle ait donné son cœur à Jésus, elle a dit, parce qu'avant ça, c'était je veux mourir, mon mari est parti, il y a un mois, moi je ne peux plus survivre, etc. Et après, elle a dit, mais peut-être je ne veux pas partir après tout, hein. Il faudrait que je reste avec les enfants. C'est comme son père, que lorsqu'il a vu sa mère, après qu'il avait donné son cœur à Jésus, à l'âge de 89 ans, il lui a dit pour la première fois, je ne sais pas combien d'années, mais qu'est-ce que tu es belle! Ah, mais tu es une personne merveilleuse! Pourquoi? Parce que quelque chose s'était passé dans son cœur. Et ça valait la peine d'aller le voir et prier pour lui. Pourquoi? Parce qu'il arrivait à la fin de sa vie. Il avait besoin de Christ. Alors, dans la souffrance, nous pensons à ceux qui souffrent sans Christ. Nous souffrons avec Christ. Et si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec lui. Alléluia. Alors, en tant que vase d'honneur, et je vais terminer en 2 Timothée, chapitre 2. Chapitre 2 et verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Seigneur, ce matin, comme résultat que tu as accepté de boire la coupe de la souffrance, aujourd'hui tes disciples, ceux qui ont cru en toi, qui t'ont reçu dans leur cœur, Jean chapitre 1 et verset 12, mais à tous ceux qui ont cru en lui, qui l'ont reçu dans leur cœur, il leur a donné l'autorité, le privilège d'être enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Seigneur, nous, en retour, nous voulons être des vases d'honneur, afin que des gens puissent boire de notre témoignage, puissent boire de la vie, puissent boire de la paix, puissent boire de l'amour sincère et authentique. Aide-nous, Seigneur, à savoir que tu comptes sur nous. Car lorsque nous traversons les épreuves, ce n'est jamais comme toi tu l'as vécu. Ce n'est jamais avec la solitude et ce sens d'être abandonné comme toi tu l'as vécu. Toi, tu as souffert pour nous. Afin qu'aujourd'hui, nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci d'avoir pris notre place. Merci d'avoir souffert à notre place. Merci parce que même si aujourd'hui ta parole nous dit, mes petits enfants, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et son sang nous purifie de toute iniquité. Ce que ce matin, sur chacun de nous, on puisse prendre conscience de la victoire que tu as remporté à notre égard sur la croix. Et comme Paul disait, je ne veux rien savoir d'autre que Christ et lui crucifié. Car c'est Christ en nous, l'espérance de gloire. Si nous voulons, Seigneur, être attachés à ta parole, attachés à ce message de rédemption, fais de nous des gagnants d'âmes, fais de nous des disciples qui en font d'autres disciples, fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui prennent au sérieux la tâche que tu nous confies. Et oui, c'est dans la souffrance. C'est dans la souffrance que nous allons grandir. C'est dans le moment d'épreuve que nous allons, Seigneur, mûrir. Mais cela sera pour notre bien. Et cela sera pour le bien de ceux qui nous entendront. Et même, Seigneur, si on va dans un extrême de confusion, de rébellion, aide-nous à nous rappeler quand tu as dit à Pierre, « Pierre, le diable viendra et va te cribler comme le froment. Mais ne t'inquiète pas, j'ai prié pour toi. » Sur des fois, Seigneur, les événements dans la vie peuvent nous pousser au découragement. Aide-nous à toujours nous rappeler, tu pries pour nous, tu as déjà prié pour nous. Et Seigneur, tu crois à l'œuvre que tu as commencée dans nos vies et dans nos cœurs. Car comme disait Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, manifeste ta gloire et ton amour dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gardons les yeux fermés, s'il vous plaît, un instant. Je ne peux pas prêcher un message comme celui-ci sans faire un appel. Un appel que le Saint-Esprit fait à votre conscience. Un appel qui se fait retentir du fond du cœur de Dieu. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Et peut-être ce matin de Pâques, c'est un dimanche, le jour de Pâques, demain, le jour dans lequel on célèbre la résurrection de Jésus. Jésus est allé jusqu'en enfer, la Bible dit. Jésus a souffert le maximum. Et c'était pour toi. C'était pour moi. Mais s'il y a quelqu'un qui dirait, Marc, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Moi, je reconnais mon besoin de Dieu. Je reconnais mon besoin d'un sauveur. Je reconnais que sans Dieu, je suis perdu. Et Jésus est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. C'est pour cela qu'il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir, pour ma vie, en rançon. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui dirait, prie pour moi, priez pour moi. Moi, je veux recevoir Christ dans mon cœur. Je veux recevoir Christ dans mon cœur. S'il y a quelqu'un qui dirait, prie pour moi, levez la main. Nous allons prier. Je veux recevoir Christ dans mon cœur. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Quand quelqu'un d'autre qui dirait, prie pour moi. Je veux recevoir Christ dans mon cœur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. Jean-Philippe, si tu peux venir, ou Esther, tu peux venir au piano, s'il te plaît. Moi, je vais inviter à ceux qui ont levé la main de venir devant. Venez devant. Approchez-vous. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur maintenant de cette décision. Le Seigneur sait exactement où tu te situes ce matin. Peut-être que tu viens pour la première fois, peut-être que tu as simplement besoin de t'affermir. Venez, approchez-vous, approchez-vous. Approchez-vous ici, 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 devant moi ici. Alléluia Christ. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, alléluia.